Alors, il faut être active, restaurer l'hope, health and life. Restaurer l'espoir, restaurer la santé, restaurer le droit. Entrer dans les contextes et la justification. Pourquoi est-ce qu'on a mis sur pied ce projet? Déjà, il faudrait savoir c'est quoi une personne vulnérable. Une personne vulnérable, c'est une personne qui, à cause d'une exposition particulière ou d'une condition particulière, ou d'un péché, peu importe, est plus susceptible de faire une maladie que la population générale. Et quand je parle de maladie, je ne parle pas seulement de maladie physique, mais je parle aussi de maladie mentale. Et quand je parle de maladie mentale, je ne parle pas de folie, mais je parle de tout ce qui peut porter atteinte à la santé mentale. Le cas que j'ai entendu, c'est le cas des personnes atteintes de VIH, par exemple. Moi, je pense que les personnes atteintes de VIH sont doublement vulnérables. Vulnérables, pourquoi? Parce que le VIH est une maladie qui te rend d'abord immunodéprimé. Donc, le fait d'avoir la maladie peut te rendre susceptible de faire beaucoup d'autres maladies. Ça, c'est vrai. En plus de ça, nous vivons dans un contexte où il y a encore des gens qui ne sont pas que nous sommes dans la même assiette avec la même cuillère qu'une personne qui a le VIH. Ils auront aussi le VIH. Dans notre contexte, le VIH est une maladie qui est encore stigmatisée. Et donc, les personnes qui sont atteintes de VIH, en plus de souffrir déjà de leur maladie, elles souffrent du regard des autres, elles souffrent de la stigmatisation partout. Si on prend par exemple le cas des personnes handicapées, quand je dis handicapées, prenons un enfant atteint d'une infirmité motricérébrale. Je suppose qu'on a tous vu quelque part un enfant qui ne parle pas, qui ne fait rien, il est là, il va, seulement comme ça. On a déjà vu, est-ce qu'on a déjà vu des personnes comme ça? Voilà. Donc vous allez voir une maman, quand elle ira à l'hôpital avec son enfant, il y a des gens qui vont faire des trucs genre
gosphobie.
Vous voyez un peu des choses comme ça, ça stigmatise. Donc quand il y aura des problèmes, elle n'ira pas à l'hôpital avec son enfant. Cette maman elle est vulnérable au même titre que son enfant. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui n'osent pas sortir avec des enfants. Cet enfant-là, comme disait une maman pendant les ateliers, ce sont des enfants qu'on cache à la maison. Les parents n'osent pas montrer leurs enfants, ils n'osent pas sortir leurs enfants parce qu'à cause du déficit qu'a leurs enfants. Prenons le cas des personnes qui ont réfugié et déplacé dans le terre. Eux alors, ils n'ont pas toujours la possibilité d'aller à l'hôpital quand ils sont malades. Pourquoi? Parce que peut-être les soins de santé sont chers, ou alors ils sont dans des zones où ils n'ont pas facilement accès à l'information sanitaire, ou alors accès aux soins de santé. Donc on se rend compte qu'il y a une réelle inégalité en termes d'accès aux soins de santé, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. En zone urbaine, on va dire, oui, il y a les centres de santé, oui, il y a la connexion Internet, oui, partout on peut avoir des informations sanitaires. Mais chez nous aussi, il y a encore beaucoup de discrimination. Je vais peut-être un peu vous choquer, mais je vais revenir sur le VIH et je vais parler du cas des travailleuses de service, par exemple. C'est leur travail, c'est leur métier. Ce sont des personnes vulnérables parce que, de par leur métier, elles sont plus à risque que la population générale de contracter le VIH ou d'autres IST ou MST. Maintenant, quand elle aura un problème, elle n'aura peut-être pas forcément le courage d'aller à l'hôpital pour dire que voici ce que j'ai, voici ce que je fais dans la vie, parce que comment est-ce qu'on va l'amener à vie? Donc, il y a encore cette barrière sociale-là, cette barrière socio-culturelle-là. Ce que nous, on veut faire à travers ce projet, c'est vraiment apporter les soins de santé et l'information sanitaire pour tout le monde. Que la personne qui n'a pas la possibilité de se rendre à l'hôpital, ou alors d'avoir accès à certaines informations parce que ce sont des choses qui sont considérées comme tabou chez nous et on ne met pas partout. Nous, Yoïda, on veut ramener les soins de santé vers les personnes. Donc, c'est de là que parle de ce projet. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on apporte? La solution principale, le cœur de notre projet, la solution qu'on apporte est numérique à travers la plateforme Yoïda que vous allez voir. Donc, à travers cette plateforme, on veut premièrement, apporter une information sanitaire de qualité et vraiment pratico-pratique aux personnes vulnérables. Par exemple, je prends un exemple banal. Moi, je suis une femme, je suis enceinte et j'ai accouché, par exemple, d'un prématuré. Nous, on voudrait qu'au travers de cette application, la femme sache que dans tel hôpital, il y a tel nombre de couveuses disponibles ici, là. Je suis atteinte de VIH, il faudrait que je sache que dans tel hôpital, il y a encore des AMV dans mon spa. Donc, c'est vraiment des choses qui sont pratiques et qui vont aider les gens au quotidien. C'est de ce genre d'informations dont on a besoin au sein de la plateforme. À côté de ça, on veut rapprocher les personnes vulnérables du personnel de santé, du personnel de soins, des soins de santé. Donc, il y aura un volet pour l'échange avec le personnel de santé, pour le suivi, pour question principale, maintenant il y a d'autres choses qui accompagnent cette solution-là. Il y a le renforcement des capacités. Donc avant de mettre sur pied ce projet, il faudrait déjà qu'on ait des personnels de santé. Parce que ceux qui vont interagir au sein de la plateforme, ce sera de façon gratuite, donc c'est le bénévolat. Il faudrait déjà qu'ils connaissent c'est quoi le projet, c'est quoi la plateforme. Donc on a fait des ateliers de renforcement des capacités des personnels de santé et des personnes vulnérables. Ou plutôt, je dirais, des leaders d'associations de personnes vulnérables. Vous allez comprendre pourquoi. Aux personnels de santé, on leur parlait de la stigmatisation. Parce que c'est vrai, on m'a dit que nous sommes médecins, on a prêté serment et tout. Mais avant d'être médecin, on est d'abord humain. Et j'irais jusqu'à dire qu'on est humain camerounais. On connaît comment le camerounais parle. Donc, quand toi-même médecin, tu vas voir quelqu'un qui a un truc là où il qui t'a dit un truc bizarre, tu vas regarder d'abord comme ça. Donc, il y a des questions pour nous de vraiment sensibiliser les médecins avec qui on va travailler et de leur dire vraiment, on n'est pas là dans le jugement, on n'est pas là dans la stigmatisation. À côté de ça, on a travaillé aussi avec les leaders d'associations de personnes vulnérables, de leur sensibiliser aussi sur les premiers secours psychologiques parce qu'ils sont directement au contact des personnes qui viennent les aider. Donc, quand ils reçoivent quelqu'un maintenant, ils sont suffisamment armés pour apporter de l'aide à cette personne-là. Et aussi, ils pourront être un peu comme notre relais dans les communautés dans lesquelles ils travaillent. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux. On a mis en œuvre ce projet dans trois villes, à Yaoundé, à Douala et à Bentoua. La dernière chose que nous voulons pour ce projet, c'est le test review, qui est un document qui fait un état des lieux de la question de la vulnérabilité au Cameroun et de l'état de santé des personnes vulnérables. Donc on aimerait à travers ce document pouvoir porter des plaidoyers en faveur des personnes vulnérables. Parce qu'on va le dire comme ça, peut-être personnes vulnérables, mais c'est quand on fait des ateliers qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des réelles souffrances. Je pense que ça c'est l'année dernière, on a eu une maman qui pleurait. Parce que je vais vous dire, elle avait un enfant qui était fragile. Donc elle pleurait pendant l'atelier, elle était vulnérable, mais ce n'était pas son enfant qui était vulnérable. Elle se sentait coupable, chaque fois que son enfant était malade, elle se sentait coupable. Il y a des gens qui nous ont dit pendant les ateliers qu'ils n'avaient pas d'accès aux soins, qu'il y a des jeunes qui sont là, ils ont beaucoup de maladies, mais ils n'ont vraiment pas d'accès, ils n'ont pas de suivi, ils n'ont rien du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de pratique qui apporte un plus à la vie des gens. On l'a dit d'entrée de jeu, ça c'est la deuxième édition du projet. La première édition c'était l'année passée, c'était l'année dernière, et on l'a mis sur pied en deux villes, à Yaoundé et à Bentoua. Donc, ce qu'on a fait, la première édition, c'est qu'on a renforcé les capacités de 40 personnes qui nous ont vu directement. Donc, on a eu 40 bénéficiaires au terme du projet. Cette fois-ci, on a renforcé les capacités de 32 personnes et 32 leaders d'associations de personnes vulnérables. L'année dernière, on a peut-être dit 40, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient participer au projet, mais on ne pouvait pas accompagner 40 personnes. Donc, ce qu'on a fait cette année pour changer et avoir le maximum d'impact, c'est de travailler directement avec les leaders communautaires pour que par la suite, ils renforcent les capacités des autres personnes. Donc, ça fait un peu comme une chaîne. Et au bout de la chaîne, on a beaucoup plus de personnes qui sont touchées. Bon, ça, c'est ce que j'ai rencontré l'année dernière. Comme je l'ai dit, on a une partie pour les formations qui étaient courtes. Donc, cette année, on a augmenté le temps pour les formations et on a travaillé avec les leaders pour avoir un plus grand impact. Maintenant, quel est l'objectif de ce projet cette année? Je pense que je l'ai suffisamment dit. C'est que déjà tout le monde puisse avoir accès à l'information sanitaire de qualité et vraiment quelque chose de pratique qui pourra résoudre tous les problèmes du quotidien. C'est qu'au travers de cette plateforme, à la fin de ce projet, les personnes vulnérables puissent être vraiment soutenues et accompagnées. Et vous allez voir, c'est justement ça la dernière phase de ce projet qu'on a déjà commencé d'ailleurs. Ce sont des séances de coaching et d'accompagnement des personnes vulnérables. Donc, une fois par semaine, on se voit. Ce sont des séances qui ont lieu en ligne avec les personnes vulnérables et on discute des thématiques qui ont trait à la santé des personnes vulnérables. À côté de ça, on aimerait qu'à travers cette plateforme, les capacités de ces personnes puissent être renforcées. Renforcées dans la mesure où, au travers du suivi qu'elles pourront avoir, elles puissent aussi apporter un suivi à d'autres personnes, aux personnes avec qui elles sont en contact. Et bien sûr, tout ça concourt à la prévention et à la promotion de la santé. Quels sont les résultats attendus? C'est essentiellement la même chose. Un accès accru à l'information, l'amélioration des connaissances et des compétences, surtout des leaders communautaires dans tout ce qui est santé. Parce que vous allez voir, il n'y avait pas que la santé mentale, il y avait aussi la santé sexuelle et reproductive. Comment est-ce que, je ne sais pas si on se base en fait pour évaluer le succès ou alors les résultats de notre projet, nous avons des indicateurs de résultats. Donc ce que nous suivons, ce sont le nombre de personnes vulnérables qui sont inscrites à la plateforme, puis à la personne sera déployée, le nombre de consultations qu'on aura effectuées sur la plateforme et le nombre de participants qui seront présents aux sessions de formation qu'on organise. Donc pour la plateforme, nous aimerions qu'après la première année de déploiement, on ait au moins 100 personnes inscrites sur la plateforme. Et qu'on puisse avoir au moins 50 consultations qui sont faites sur la plateforme. Bien sûr, pour être 36 leaders d'associations de personnes vulnérables qui sont dans le projet puissent participer complètement aux séances d'accompagnement et de coaching. La méthodologie, bon, c'est essentiellement ce que j'ai dit dans le jeu, j'ai préféré un peu de quoi il s'agissait. Donc, le développement et le déploiement de la plateforme numérique, le renforcement des capacités, le suivi et le coaching. Maintenant, avec qui est-ce qu'on parle, avec qui est-ce qu'on travaille dans le cadre de ce projet? Donc, nous travaillons avec des ingénieurs informaticiens qui sont là et qui sont ceux qui ont été responsables de développement de la plateforme. Merci. Nous travaillons avec les leaders de l'association de personnes vulnérables et nous travaillons avec les experts en droits humains, en santé mentale, en santé sexuelle et productive. Et nous travaillons également avec un personnel de santé qui est diversifié. On a des médecins généralistes. On a des gynécologues, obstétriciens, on a des pathogastro-entérologues, on a bien sûr des psychologues. Maintenant, en termes de personnes vulnérables, comme je l'ai dit, les personnes vulnérables sont des personnes qui sont plus exposées. Donc, techniquement, les enfants sont vulnérables, les femmes enceintes sont vulnérables. Mais nous, dans notre projet, on travaille avec trois catégories principales de personnes vulnérables. D'abord, les personnes atteintes de VIH. Ensuite, les personnes handicapées et enfin, les réfugiés et les déplacés. Maintenant, quel est l'impact, bien sûr, l'amélioration de la santé et du bien-être, la réduction de la stigmatisation. Vraiment, on insiste sur la réduction de la stigmatisation aux personnes handicapées, aux personnes atteintes de VIH, on insiste vraiment là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a tenu à faire cet atelier, toute cette conférence sous forme d'atelier, pour que, avec vous, qui sont nos partenaires, nous puissions vraiment comprendre l'importance de la réduction de la stigmatisation. Vous savez, chez nous, on a beaucoup peur du cancer, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc, quand tu vas à l'hôpital, par exemple, tu dis ça comme ça, tu es une femme citerne, tu as accouché, et que tu as un personnel de santé qui te dit, toi, c'est toi qui sais que tu es une femme citerne, c'est toi qui as accouché les gens. Donc, vous voyez qu'il y a des choses comme ça, et ce n'est pas seulement le personnel de santé, c'est même nous au quotidien qui pensons des choses comme ça. Donc, il faudrait que nous sensibilisions et qu'on comprenne que vraiment ça a un impact sur la vie des gens. Ça a un impact sur la santé mentale des gens. Ça fait en sorte que les personnes peuvent ne même pas avoir le courant d'aller à l'hôpital. Et une personne qui ne va pas à l'hôpital, comment elle fait quand elle est malade? Elle va sur les réseaux sociaux où on va lui dire de, je ne sais pas, de prendre le verre pour soigner le cancer ou je ne sais pas quoi. Ou alors il ira chez le baba là du quartier, chez le docteur du quartier. On ne sait pas ce qu'il va lui donner. C'est comme ça que de plus en plus on a une résistance aux médicaments. Donc on aimerait vraiment que tu aies l'opéré en termes de réduction de la stigmatisation en santé. Maintenant, comment on compte assurer la durabilité de notre projet? C'est-à-dire après ce qu'on fait ici, après cet atelier, après le renforcement des capacités, comment est-ce qu'on assure la durabilité de notre projet? Donc pour ça, on s'appuie vraiment sur notre réseau de partenaires, on s'appuie vraiment sur vous pour continuellement relayer l'information, pour continuellement sensibiliser la population. Et on s'appuie aussi sur l'engagement communautaire de chacun de nous. Des leaders de l'association avec lesquels on travaille, parce qu'on va continuer de travailler avec ces leaders. Donc, vraiment, je dis que c'est un réel appel à l'action. On vous appelle à nous suivre dans cette lancée-là et vraiment à lutter avec nous pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à l'information, pour que le minimum de personnes puissent être stigmatisées et vraiment pour que le maximum de personnes puissent, je ne sais pas si on peut dire avoir un bien-être, non. Comment? Oui, se sentir mieux. Donc voilà, j'ai envie de dire tous pour